pleine gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pios. Génial les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. On va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur L'Envolée, comme tous les vendredis soirs sur FPP 106.3 FM. Vous pouvez nous écrire au 1 rue de la Solidarité, Paris 19e. Vous pouvez nous envoyer des messages ou des textos au 07 53 10 31 95 ou nous appeler en direct à la radio, mais pas ce soir, car c'est une émission enregistrée. Vous pouvez aussi nous retrouver sur l'envolée.net, sur X, Facebook ou Instagram.
Voilà, donc comme on vient de le dire, c'est une émission qui est préenregistrée, qui va être diffusée le 24 octobre 2025. Et donc aussi, on va rappeler, c'est quoi L'Envolée ?
Alors L'Envolée, c'est une émission de radio et un journal qui, depuis 2001, relaie la parole des personnes enfermées et de leurs proches pour lutter contre toutes les prisons, maisons d'arrêt centrales, centres de rétention administrative et HP.
Et du coup, on en profite pour rappeler que le dernier numéro du journal, le numéro 63, vient de sortir et que l'abonnement est gratuit pour les personnes enfermées. Du coup, voilà, n'hésitez pas à le demander pour des proches qui seraient incarcérés ou à vous abonner si vous êtes à l'extérieur. Et donc, dans l'émission de ce soir, on va consacrer en fait toute l'émission à Robin Cotta, donc qui a été tué par son codétenu au Baumettes le 9 octobre 2024. Il avait juste 22 ans. Et depuis, ses proches se battent pour obtenir la justice et notamment confronter l'administration pénitentiaire à sa responsabilité dans cette mort.
On va d'abord écouter une émission réalisée par Carole, la mère de Samuel, un ami incarcéré en même temps que Robin, avec Radio Zinzine, qui vous pouvez retrouver.
Voilà, sur un lien qu'on va mettre dans la description de l'émission, mais voilà, sinon on peut retrouver sur le site de Radio Zinzine. Et donc dans cette émission, il y a en croisé les récits de Carole et de Samuel, et aussi un conte qui a été écrit en hommage à Robin. Nous, on a juste coupé du coup les passages où on entendait Darmatin, une matane syndicale qui essayait de se justifier. Et on a juste simplement gardé les réponses que leur adressait Carole. Ensuite, dans la suite de l'émission, on va aussi passer les prises de parole qui ont été faites à la Marche Blanche en hommage à Robin qui s'est tenue donc le 11 octobre de cette année, la 2025. Et donc on reviendra brièvement sur cette marche. Et à la fin, on reparlera aussi du coup un peu de Mehdi qui était mort au quartier de semi-liberté de la Talaudière il y a 2 ans, et dont on avait parlé à cette antenne dans des circonstances malheureusement très similaires à celles dans lesquelles Robin est mort. Et donc on va commencer avec cette émission de Radio Zinzine qui dure environ une cinquantaine de minutes. Et vous allez voir, mais voilà, enfin, nous forcément, à l'envolée, ça nous a parlé, parce que c'est une histoire en fait qui raconte à la fois les liens entre la galère économique et l'enfermement, qui montre bien aussi le caractère systémique des violences carcérales, et le rôle des matons et de l'administration, à la fois dans le fait que la prison tue, mais aussi dans la façon dont elle se couvre derrière, et la déshumanisation totale des personnes enfermées, enfin qu'on voit bien dans la façon dont se comportent les surveillants. Au moment où il y a des alertes, et une fois aussi même qu'il y a eu un décès, mais aussi du point de vue de l'administration, la façon dont elle peut traiter les proches, voilà, les autres prisonniers. Et donc, on le rappellera en fin d'émission, et on mettra aussi les liens sur le descriptif de l'émission en ligne. Mais du coup, pour soutenir le combat des proches, il y a une page Facebook, Justice pour Robin Cotta, qui est associée à la page Facebook de Carole, qui est du coup la page Facebook Carole Hernandez Chaptal, voilà, sur lesquelles vous pouvez les rejoindre pour soutenir leur bagarre. Et donc voilà, on va tout de suite écouter cette émission de Radio Zinzine.
Robin Cotta a été assassiné à la prison des Baumettes à Marseille le 9 octobre 2024 par son codétenu, et ce n'est pas qu'un fait divers. Robin avait 22 ans. L'histoire de son arrestation, à sa détention jusqu'à sa mort, soulève des interrogations qui pourraient nous faire penser à un scandale d'État. À travers le témoignage lu de Samuel, arrêté en même temps que Robin, et l'interview de sa mère, Carole, très investie dans ce combat pour la mémoire de Robin, des questions restent en suspens. Pourquoi faire de la préventive pour une fausse ordonnance de codéine et un casier judiciaire vierge? Pourquoi les détenus condamnés sont avec les détenus en préventive dans la même cellule? Pourquoi les appels à l'aide de Robin n'ont pas été suffisamment pris en compte? La surpopulation carcérale est évidemment un fait et sûrement une des causes de ce drame largement évoqué dans les extraits d'interview de Gérald Darmanin, alors ministre de la Justice, et Catherine Forzi, déléguée syndicale de FO Justice à la prison des Baumettes. Nous écouterons également des extraits de l'intervention de Stéphane Père, journaliste pour la cellule Investigation de Radio France. Le conte écrit par Carole, en hommage à Robin, qui s'intitule « Robin Soleil » ou « Celui qu'ils n'ont pas voulu protéger », sera le fil de cette émission. il était une fois, à Saint-Auban, village d'usine, de collines et de vent, un jeune homme du nom de Robin. Mais les anciens qui voyaient au plus profond du cœur des hommes l'appelaient Robin Soleil. Ils avaient appris, les vieux, à reconnaître en un regard celles et ceux qui éclaboussaient de lumière tout ce qu'il y avait sur leur chemin. Robin Soleil n'avait pas poussé, comme les autres enfants, dans le ventre d'une seule mère, ni grandi sous le toit d'un unique père. Il avait fait famille avec des frères choisis, des laissés pour compte, de doux éveillés, des écorchés au cœur bien tendre. Ensemble et unis, ils étaient un cercle fort que même une tempête n'aurait pas su briser. Il disait « Mes frères sont ceux qui portent leur cœur dans leurs mains ». Et ses mains à lui étaient pleines de douceur.
Je m'appelle Sam, et si je parle aujourd'hui, c'est pour rendre hommage à mon meilleur ami, Robin Cotta, et pour raconter ce que nous avons vécu. Des mots qui blessent, des gestes qui humilient, et un système qui banalise la prison au point d'oublier qu'elle peut tuer. Robin était plus qu'un ami, c'était mon frère de cœur. Nos familles étaient liées. Nous avons grandi ensemble. C'était un gars vrai, fidèle, généreux, un pilier. Il faisait rire, il redonnait de la force. On avait du caractère, alors oui, on s'embrouillait parfois, mais jamais longtemps. Robin rêvait de liberté, il voulait voyager, découvrir, explorer. Il savait qu'il fallait de l'argent pour s'en sortir. Non, pas pour frimer, mais pour construire une vie solide. Il n'a jamais eu peur de travailler dur pour y arriver. Avant notre incarcération, Robin a travaillé pendant un an dans une entreprise où il posait des panneaux photovoltaïques. Il était déterminé, il partait en déplacement partout en France. Il me disait souvent que c'était dur, mais il n'a jamais lâché. Son objectif était clair, économiser pour passer son permis de conduire, acheter une voiture, prendre un appartement. Pendant un an complet dans cette entreprise, il s'est donné à fond, mais il n'a pas pu décrocher le CDI qu'il méritait mille fois.
Robin, c'est un bosseur. Les jeunes n'ont pas tous la possibilité et la faculté de travailler à partir de 18 ans. Ils n'ont pas tous une famille qui peuvent les aider. Donc certains jeunes qui se retrouvent peut-être par manque de moyens, manque de diplômes, se retrouvent avec zéro revenu. Donc comment pouvons-nous faire, la société française actuelle, pour que ces jeunes ne passent pas par la voie « je commets des délits pour pouvoir subvenir à mes besoins en nourriture ». Comment faire ? Quand un enfant entre 18 et 25 ans pendant 7 ans n'a droit à aucune aide sociale, le RSA, ça n'existe qu'à partir de 25 ans. Ben, c'est des enfants qui tombent dans des addictions s'ils sont un peu fragiles. Il faudrait peut-être se poser la question de pourquoi les jeunes tombent dans la délinquance en France.
Je l'ai toujours décrit comme un virtuose de la vie, curieux, inventif. Il voulait tracer sa propre voie, vivre intensément. Ce qu'on aimait chez lui, c'est sa sincérité. Robin ne trichait pas. Raison de l'arrestation, nous étions partis chercher quelques sirops à la codéine avec les ordonnances. On buvait énormément de sirops, on était de très gros consommateurs, dans une vraie addiction. Oui, c'est vrai, il nous arrivait d'en vendre, tout le monde s'en doute, les autorités le savent, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. On n'était pas des trafiquants, on était des jeunes pris dans une dépendance, qui consommaient à outrance et qui parfois cédaient à la facilité d'en revendre pour avoir un peu d'argent. Ça ne justifie rien, mais ça explique. C'était une spirale d'addiction, pas un business organisé.
Donc c'est un sirop codéiné, un sirop pour la toux pour les bébés, avec un taux de codéine dedans, qui coûte 2,80€. En 2017, il était encore en vente libre, on n'avait pas besoin d'ordonnance. Alors ils n'ont pas fraudé du tout la sécu, hein. Ils ne se sont pas fait rembourser. Il s'était fait de fausses ordonnances qu'on trouve sur Internet très facilement. Il payait à chaque fois le sirop, hein, qui n'a pas escroquerie à la sécurité sociale. Ce n'est pas un gros réseau, comme on a pu entendre parler de trafic de médicaments. C'est surtout, on entend surtout parler de cette boisson dans les musiques de rap. Donc ils appellent ça la purple drink ou la lean. Il n'y avait aucun alcool dedans. Codéine, Schweppes, grenadine, quoi.
Avec le recul, je comprends mieux la gravité. La codéine, même légale, est une drogue dure, destructrice. À l'époque, on ne se rendait pas compte de ce danger. On savait que c'était addictif, mais on se voilait la face. Il y a un détail que je n'oublierai jamais, c'est que Robin venait d'avoir son permis à peine 2 semaines plus tôt, encore une fois grâce à sa détermination, et ce 20 septembre 2024, c'était la toute première fois qu'il prenait la voiture. Il se sentait enfin un peu libre, parce que la voiture, c'est la liberté. Il en a profité quelques heures à peine avant qu'on s'arrête.
Mais un jour, Robin Soleil trébucha, un tout petit faux pas, comme un minuscule caillou qui aurait roulé sous sa chaussure. Il n'avait pas braillé un grand cri de guerre, ni commis un violent acte de haine. Non, vraiment rien de tout cela. Un instant d'égarement, la boussole qui aurait déraillé un peu, et ils s'étaient perdus. Une erreur de jeunesse, ils avaient dit les vieux, parce qu'ils avaient oublié depuis longtemps qu'être jeune, ce n'était pas qu'un pas de danse insouciant. Et ce si petit écart, un pied à peine en dehors du sentier tout tracé, ceux qui n'ont pas voulu le protéger ne le pardonnèrent pas.
Sa mère lui a donné une petite voiture, donc ils sont partis tous les deux. Samuel attendait dans la voiture. Robin est entré dans la pharmacie. Quand le pharmacien s'est rendu compte que c'était une fausse ordonnance, parce qu'ils ont des logiciels maintenant, c'est tellement fréquent, des jeunes qui se présentent avec des fausses ordonnances, qu'il a fermé le rideau de la pharmacie et il a appelé les gendarmes. Samuel a compris qu'il y avait un problème. Il est allé en direction de la gendarmerie pour voir ce qui se passait. Un gendarme l'a aperçu et lui a demandé si c'était un ami à Robin. Il a dit oui. Et ils l'ont emmené à la gendarmerie. À ce moment-là, ils étaient donc en garde à vue. Et ils ont tout avoué. Tout. Alors, la garde à vue a duré 2 jours, et à savoir qu'ils étaient, surtout Robin, en état de manque. Il est tombé sur un gendarme qui connaissait Robin depuis tout petit. Et ce gendarme-là m'a dit, ne vous inquiétez pas, c'est des bons garçons. C'est une erreur de jeunesse.
Au tribunal, on avait encore un petit espoir, mais l'avocate commise d'office nous a dit 90% de chances que vous rentrez en prison. C'était une avocate commise d'office, ça s'est senti. Pas une vraie défense, pas une stratégie, juste une fatalité annoncée. Elle connaissait très bien le barreau. Dans ce petit milieu, tout le monde se connaît. Nous, on n'était pas des personnes à défendre, on était juste un dossier de plus à expédier.
Ils avaient un casier vierge tous les deux. Le procureur a dit « on les enferme jusqu'au moment où on aura fini d'analyser leur téléphone ». Samuel a pris sa préventive de 4 mois. Les téléphones n'étaient pas encore analysés.
Juste avant, un homme accusé de viol sur une mineure de 14 ans est relâché sous contrôle judiciaire. Nous, pour une affaire de codéine, on part en prison. Voilà le contraste. Moi, je m'effondre, je pleure, la colère, elle monte. C'est Robin qui me relève dans les geôles, il m'ouvre les bras et il me dit « T'inquiète frère, quand on sortira, on ira en Thaïlande, on fera quelque chose de légal. On est fait pour réussir à deux, on va ressortir plus fort, on est des bonnes personnes, il ne pourra rien nous arriver. » On discute des prisons possibles, c'est-à-dire Gap, Jing, Luynes, les Baumettes. Et moi je dis « Pour celui qui va aux Baumettes, c'est chaud. » Donc Robin il me répond « Toi à Gap, Jing, Luynes, ça va, je connais un tel et un tel. » Moi, si je vais au Baumettes, ça va, je connais un tel. Mais il voulait me protéger, comme s'il acceptait déjà de prendre ma place. Et ce jour-là, je n'oublierai jamais, en pleine audience, le juge sort son téléphone, regarde qui l'appelle, comme si nos vies pouvaient attendre. Pas un regard humain, juste les yeux devant ses papiers. Ça, c'est du mépris pour moi. Décision, Robin au Baumettes, moi à Luynes. Dernière image que j'ai de lui vivant, il passe dans le couloir, et je lui dis « force frère ». Il revient juste pour me répondre « force frère ». Alors nous avons été arrêtés le 20 septembre 2024, 48 heures de garde à vue, puis détention provisoire le 22 septembre.
Nous, on a été dans un état de sidération terrible. Moi, j'ai pu avoir des nouvelles de Samuel directement. La SPIP de Luynes m'a envoyé un mail le lendemain en me disant comment lui envoyer de l'argent, comment lui apporter du linge, comment communiquer avec lui. Tandis que Odile, la maman de Robin, n'a rien reçu. Bon, la famille est complètement démunie dans ces cas-là. Quand un enfant est incarcéré, on n'arrivait même pas à trouver le nom de l'avocat commis d'office qui les a défendus.
Robin Soleil fut arraché à sa famille et à son cercle. Ceux qui n'ont pas voulu le protéger le jetèrent sans égard ni ménagement, loin de ses frères, mère et père, dans la grotte des hommes enfermés, ce lieu surnommé « la cage aux goules ». Qui faisait trembler de ce qu'on en racontait, même les plus endurcis. Il n'y pénétra pas comme un serpent, honteux et peureux, mais comme un oiseau léger aux ailes arrachées, mais dont le chant était resté intact malgré ses chaînes.
Les premiers jours à Luynes, moi j'avais peur. Notre place, elle n'était pas en prison. On nous met sous mandat de dépôt de 4 mois, mais moi je croyais qu'on en avait pour juste pour 2 semaines. Je tiens grâce à de bons co-détenus, au mandat, aux appels de ma famille, et surtout parce que je pense à Robin. Et je sais qu'il se faisait plus de soucis pour moi que moi je m'en faisais pour lui. Et très vite, on voit le comportement des surveillants, indifférents, froids, jamais dans l'écoute. Pour eux, les alertes sont des caprices, pas des appels à l'aide. Les ELAC, eux, interviennent comme des robots, force, intimidation, aucune humanité. Et pour Robin, ça a été fatal.
Dix-sept soleils et 17 lunes passèrent. Et dans cette antre de béton, jamais Robin Soleil ne cessa de briller. Il prêtait ses mots à ceux qui n'avaient pas appris à écrire le langage des lettres. De sa plume s'élevaient des missives pour les cœurs emprisonnés, des lettres d'amour, des lettres qui parlaient d'espoir, des mots rassurants pour les mères et les enfants, des prières aux juges. Il avait peu, mais il donnait tout, même son souffle. Les rois du sombre royaume prison, ceux qui ne voulaient pas le protéger, avaient le cœur plus dur que la pierre. Pleins d'orgueil, ils affirmaient haut et fort qu'ils étaient dans le camp de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Mais les murs épais les empêchaient d'entendre les appels des prisonniers et les condamnés à l'oubli. Seules leurs précieuses lois, leurs principes dont ils étaient si fiers, écrits en lettres d'or, étaient sans cesse bafoués. Ils jugeaient les faux pas comme des crimes et punissaient plus vite qu'ils ne comprenaient. Ils ouvraient les portes du royaume prison bien plus facilement que leurs bras et leurs oreilles. Et la jeunesse, petit oiseau, au lieu de lui tendre la main, il lui brisait les ailes et lui rompait le cou. Les prisons étaient prêtes à éclater, enceintes de pierre et d'acier remplies jusqu'à la gueule par les rois insensibles qui n'en connaîtraient jamais le ventre monstrueux. Ceux qui n'ont pas voulu le protéger parlaient d'exemples et de leçons, de faire passer l'envie de sortir du droit chemin, de punir les écarts de conduite de la jeunesse qu'ils ne comprenaient pas. La jeunesse. Tous les Robins du monde. Condamnés avant même que la justice n'ait rendu son verdict et jetés en pâture à la fureur des ogres barbares qui avaient oublié toute humanité. Les ailes fragiles broyées entre les mâchoires puissantes de la goule affamée dans cet antre de la misère et de la folie. C'est là qu'on laissa Robin Soleil.
Le papa Robin a reçu une lettre à peu près 2 semaines après son enterrement, une lettre de Robin. Donc la seule qu'il a eu le temps d'écrire, qui commençait par dire « Mon co-détenu est un mec super sympa ». Alors ça a été un choc. En fait, on a compris après qu'il a été incarcéré au départ avec une personne pendant 12 jours, avec qui il s'est bien entendu, qu'il a aidé. Des détenus lui ont prêté des vêtements, donné du tabac, lui ont expliqué comment fonctionnaient les baumettes, et il écrivait des lettres pour ses jeunes. L'administration pénitentiaire a dit qu'il avait donc le profil d'une mule. Mais tu vois, les surveillants, de suite, ont pensé, comme il s'intégrait bien, qu'il n'avait pas peur, et qu'il n'avait pas peur de certains. Hein. Donc, ils l'ont de suite catalogué comme détenu pouvant servir de mule. Alors, non, il essayait simplement de survivre et peut-être d'échanger une lettre écrite à une maman, une sœur, une amoureuse contre une de cigarettes. Et ensuite, il a été changé de cellule pour être mis dans la cellule de ce co-détenu. Alors lui, il avait déjà signalé à l'unité sanitaire des baumettes que si on le mettait avec quelqu'un, il ferait une dinguerie.
Justement, Stéphane Père, qui est journaliste pour la cellule investigation de Radio France, confirme la violence du codétenu de Robin dans une émission du 13 janvier 2025.
Un homme de 25 ans, plusieurs fois condamné, incarcéré pour transport de stupéfiants que ne connaissait pas Robin et qui, selon les auditions des autres détenus, s'était déjà montré très menaçant avec ceux qui ont partagé sa cellule.
Il avait déjà fait fuir ses autres co-détenus en mimant des gestes de trancher à la machette des corps. C'était quelqu'un qui était seul, qui restait seul, qui ne parlait à personne. Les détenus se méfiaient de lui. Et il a été incarcéré pour trafic de stup seulement pour 2 mois. Et là, il devait sortir la semaine d'après. Il avait déjà 2 fois 6 mois de sursis pour violence. Lui, il n'était plus prévenu, il était condamné. Et au bout de 2 mois, il était encore au quartier des arrivants. Quartier des arrivants, normalement, tu restes pas plus de 15 jours. Donc, il y a déjà un manquement pour Robin, qui a fait 17 jours. Ouais. Pour lui, qui était déjà condamné, ça faisait 2 mois qu'il y était.
Gérald Darmanin, alors ministre de la Justice, était invité à l'émission « C'est à vous » sur France 5 du 2 juillet 2025. Il s'explique sur les faits de mélanger les prévenus avec les condamnés, même si, dans le cas de Robin et de son codétenu, c'est le contraire de ses dires qu'il s'est passé, et que, pour lui, un prévenu est très souvent coupable. Dans cette cage infâme, aux barreaux étroits, on l'abandonna avec un être que la colère avait déformé, que les autres fuyaient et appelaient en murmurant « le monstre au silence terrible ». La créature n'avait pas de regard, seulement deux fines crevasses dans lesquelles brûlait la fièvre de sa démence. Robin Soleil sentit le froid glacial se répandre dans l'air vicié de la cellule toujours close, la lourde et sourde menace qui s'abattait implacablement sur ses épaules.
Et en plus, ce quartier des arrivants, c'est l'endroit où on observe le comportement des détenus et où on les oriente. Donc, ils auraient dû observer que cet homme-là était dangereux.
Les petits délits, honnêtement, non, il faudrait qu'ils trouvent une autre alternative. Pourquoi les mettre avec des plus gros trafiquants? Pourquoi les mettre avec des gens qui ont un réseau? Pourquoi les garder en prison? On crée des trafiquants. Donc, c'est pas la peine, il faut trouver d'autres alternatives.
Tous les 5 jours où il est resté avec lui, il n'a cessé de faire des lettres au chef de service, au surveillant, à la directrice, à le dire de façon orale, à sonner à l'interphone.
Ses alertes avaient été ignorées. Dès son arrivée, Robin avait demandé à changer de cellule. Il l'a fait par écrit, par interphone, trois courriers envoyés, plusieurs appels à l'interphone. Je disais même « je préfère aller au mitard que de rester avec ce co-détenu ». Mais rien n'a été fait.
Le 8 octobre, on lui a dit « demain, tu changes de cellule ». Le 9 octobre, à partir de 7 heures, il avait quand même tellement confiance en l'administration qu'il a quand même renouvelé encore ses demandes.
En seulement 6 jours de co-détention, Robin a demandé au personnel et à la direction des Baumettes de changer de cellule dans 3 courriers différents. L'une de ses lettres date du matin même de sa mort. Ce majeur n'avait pas de casier judiciaire. On rappelle, il réclame une nouvelle fois être transféré loin de son co-détenu qu'il juge menaçant. Dans la cellule d'en face, propose-t-il à l'administration. Robin se dit même prêt à aller à l'isolement, au cachot, comme on dit en prison, pour être éloigné coûte que coûte de son co-détenu.
Tous les surveillants, dont il a cessé ce 9 octobre d'envoyer des messages à l'interphone en disant « quand est-ce que vous me changez ? Quand est-ce que vous me changez ?» Et ce qu'on sait, c'est qu'on lui a répondu toute la journée « le surveillant va passer te voir, le surveillant chef va passer te voir ». Mais à 17h, ce surveillant est parti chez lui, est rentré chez lui sans aller voir Robin. Une heure après, il était mort.
À la prison des Baumettes, Robin a bénéficié et eu accès au SMPR, Service Médicologique, Psychologique, Régional, et au XAPA, Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie. Les signalements ont été également notés dans les relèves des soignants, qui ont prévenu à maintes reprises l'administration pénitentiaire. Effectivement, ils ont un logiciel soignant pour leur transmission professionnelle, le CIMES.
Il y a 3 lettres qui ont été déposées dans la banette du chef des arrivants, 2 lettres de Robin et 1 lettre d'un co-détenu qui souhaitait que Robin vienne dans sa cellule. Si tu demandes à changer de cellule, c'est que c'est toi qui as un problème. C'est toi qui es fou, c'est toi qui es dangereux, c'est toi, ça va pas, t'arrives pas à t'adapter.
L'enquête dira s'il y a des responsabilités. De ce que je sais, de les agents, de ce qu'ils disaient, oui, il y a eu des appels, il y a eu des courriers de fait. Après, je vais vous dire qu'on est tellement débordés, manque d'effectifs à tous les niveaux et dans tous les corps. Non, on le transmet à la hiérarchie, et c'est la hiérarchie qui change les cellules. Ce ne sont pas les surveillants. Les surveillants transmettent juste les infos à leur gradé.
Il alerta les guetteurs, les gardiens, les rois du royaume prison, ceux qui n'ont pas voulu le protéger. Robin Soleil cria sans jamais hurler. Robin Soleil demanda de l'aide. Robin Soleil ne fit pas d'esclandre. Robin Soleil prononça le mot de la bête immonde. Robin Soleil savait qu'il était en danger. Robin Soleil connaissait ce qui avait le pouvoir de le sauver. Pendant 5 jours et 5 nuits, il prédit le sang qu'il allait verser. Il dit « Je suis dans la cage du monstre. Je sais qu'il va m'engloutir. » Mais ceux qui détenaient les clés du royaume prison restèrent de marbre. Souriant indifférent à la détresse de Robin Soleil, ils n'ouvrirent pas la porte de la cage. Ils ne lui tendirent pas la main pour l'arracher au péril qui le guettait. Ils n'écartèrent pas la bête furieuse. Ceux qui n'ont pas voulu le protéger lui dirent « Nous verrons demain » et il n'y eut jamais de demain.
Le rapport pénitentiaire qui résume cette affaire dit aussi que Robin a utilisé à de très nombreuses reprises l'interphone de la cellule pour demander son transfert. Et puis, Il y a ces séquences vidéo. L'une, captée 2 heures avant le meurtre, montre la porte fermée de la cellule où était Robin et une feuille qui s'agite sous la porte, un mot, on imagine, à destination des surveillants. Une feuille que le gardien, en poste, voit au sol, mais semble ignorer volontairement. Enfin, cette autre séquence, captée un peu plus tard à 18h22 par les caméras de la prison, au moment de la gamelle, la distribution du repas, Robin refuse de retourner en cellule avec son co-détenu, ce qui lui a été refusé. Moins d'une heure plus tard, on le retrouve mort dans un bain de sang.
Le 9 octobre 2024, 17 jours après notre incarcération, Robin meurt au Beaumetz, mon frère, mon meilleur ami. Et là, au lieu de respect, voilà ce qu'on constate. Le 9 octobre au matin, il est agressé en promenade, on lui vole ses médicaments, il ne répond pas au coup. Quelques heures plus tard, il refuse de réintégrer sa cellule et il dit « Je préfère aller au mitard ». Réponse des surveillants, pas de place disponible. Il est donc obligé de rentrer. Un peu après, il glisse un papier sous la porte. Le papier reste visible des heures, des surveillants passent devant, personne ne réagit. Ce papier n'a jamais été retrouvé. Ses courriers, ses appels, son refus de cellule, son papier sous la porte, tout pointait vers un danger immédiat, mais rien n'a été fait. Vers 18h30, les co-détenus entendent des bruits de lutte, puis la voix de Robin qui crie « Arrête s'il te plaît ». Il frappe aux portes, appelle les surveillants, réponse « On arrive ». Mais les surveillants mettent 30 minutes à intervenir. Pendant qu'il se faisait tabasser, Robin a encore appelé plusieurs fois à l'interphone. Toujours rien, pas de réaction, pas de secours. En attendant, son co-détenu l'a frappé, piétiné, lui a cassé les côtes, perforé les organes, puis il a pris un morceau de porcelaine et il lui a tranché la gorge jusqu'à la limite de la décapitation. Avant ça, il avait même ouvert la fenêtre pour crier « Je lui ai niqué sa mère à ce fils de pute ». Quand les surveillants sont enfin arrivés, ils trouvent Robin dans une mare de sang, mais il était trop tard. Robin avait supplié, écrit, appelé. Les surveillants avaient vu, ils avaient entendu, mais personne n'a agi.
Les détenus ont entendu les hurlements de Robin qui criait « Je m'excuse, excuse-moi, pitié, arrête ». En fait, le criminel l'a fait mettre à genoux. On sait que Robin a essayé de se réfugier dans la salle de bain qui n'a pas de porte, bien entendu. Et puis dans 9 mètres carrés, quand la porte est verrouillée pour sortir, il n'y a pas d'endroit où te cacher. Après des bruits de lutte qui ont duré environ 10 minutes, au dire des détenus de la cellule d'à côté, il a ouvert la fenêtre, le criminel. Donc les détenus de la cellule d'à côté lui ont demandé ce qui se passait et comment aller au bain. Cet homme a dit « je vais le finir ». Donc c'est à ce moment-là que les détenus ont commencé à taper contre les murs, à appeler à l'interphone. Quelques minutes après, ils ont entendu le bruit d'un verre cassé. Bon, ben, il a égorgé à plusieurs reprises jusqu'à pratiquement avoir la tête détachée. Lui dit que c'est de la légitime défense. Le criminel n'a aucune marque de violence, aucun bleu, rien. Robin ne s'est pas défendu. Personne n'avait les clés des cellules. La personne avec les clés des cellules était à l'extérieur de la prison. C'est un abandon total.
Le cinquième soir, la violence et la folie du monstre se déchaînèrent. Il n'y eut ni lutte, ni duel. Robin Soleil, ses hurlements apeurés, son corps roué de coups, son sang qui coule en silence, sa chair lacérée comme une feuille de papier, son cou tranché, son souffle coupé, sa lumière qui le quittait, notre soleil qui disparaissait. Depuis leur cage, les autres prisonniers, impuissants, s'époumonèrent. Leurs voix montèrent comme les tambours de la terre en colère. Car ils savaient, tous savaient, y compris ceux qui n'avaient pas voulu le protéger et qui prétendaient ne pas savoir. Tous savaient que Robin Soleil n'aurait jamais dû s'éteindre entre ces murs.
Alors quand ils ont ouvert la cellule, qu'ils ont trouvé Robin allongé sur le ventre, il y avait une mare de sang qui coulait sous la porte. Le surveillant qui a ouvert a vomi. Il y avait du sang sur les murs, il y avait du sang de partout. Les détenus d'à côté nous disaient que les surveillants marchaient dans le sang et que ça faisait flop, flop, flop. Le criminel, quand ils ont ouvert, se tenait sur son lit en hauteur, lit superposé, les yeux fermés, et il était calme et souriant.
Moi, je me souviens encore de la façon dont j'ai appris la mort de Robin, que ce matin-là, je me lève comme d'habitude, j'allume la télé avec mon co-détenu, qui lui aussi connaissait Robin, on venait du même département. Et aux infos, je vois qu'un détenu a été tué au Beaumetz, il disait un arrivant, 22 ans, et pourtant, je n'ai pas douté une seule seconde que c'était lui. Je me suis dit, Robin a dû entendre parler de cette histoire. Comme si c'était trop énorme, trop impensable pour que ça le concerne. C'est seulement plus tard, entre 14h et 15h, quand j'appelle ma mère et que je comprends, sa voix tremble et elle me dit, c'est mon impossible, Robin est mort. Dans ma tête, tout s'éclaire brutalement. Je comprends d'un coup tout ce que j'ai vu le matin à la télé. C'était lui, cette info froide, balançant en deux phrases. Parler de mon frère. À ce moment-là, mon monde s'écroule.
Depuis ce jour, chaque fois que le vent passe au-dessus du village de Saint-Auban, il emporte le rire de Robin Soleil, léger, indocile, mêlé à l'odeur de la terre chaude et des souvenirs en fleurs. Souvent, tout le temps, il me semble l'entendre, oui. Écoutez, c'est son rire. Celui qu'il partageait avec les siens, tressé d'amitié loyale et de regards clairs. L'éclat joyeux d'un oiseau libre que je reconnaîtrais parmi mille. Et quand le soleil décline, il dessine sur les murs sa silhouette. Celle d'un jeune homme au doux regard de feu qui écrivait pour les autres et appelait ses amis, ses frères. On dit que son nom est gravé à jamais dans les racines, que le prononcer encore et encore obligera ceux qui n'ont pas voulu le protéger à lui rendre justice. On dit aussi que sa voix réveille le cœur des vivants pour qu'ils n'oublient jamais. Car Robin Soleil n'est pas mort, il est devenu comte et les comtes, eux, ne meurent jamais.
Samuel l'a su le jour même au téléphone, donc il s'est complètement écroulé. Donc il a une cellule anti-suicide autour de lui à la prison de Luynes, mais qui consiste seulement à faire des rondes toutes les nuits, deux ou trois fois dans la nuit, allumer la lumière et lui demander s'il est toujours vivant.
J'ai été extrait à la morgue et aux obsèques. Je suis escorté par quatre surveillants imposants, menottés, attachés par une laisse devant ma famille. À la morgue, ils assistent à la présentation du corps, atteinte à l'intimité la plus totale. Dans le fourgon, des blagues sexuelles déplacées qui fusent. À plusieurs reprises, les surveillants me demandent si la mort de Robin était un contrat. Je leur réponds à chaque fois que non, mais ça les aurait bien arrangé d'avoir cette explication toute faite, plutôt que d'assumer les responsabilités réelles de l'administration. À un moment, je demande même à un surveillant si tout ça est normal. Il me répond que non. Aux obsèques, la mise en scène continue, quatre voitures de gendarmes mobilisées, un dispositif impressionnant et même une gendarme armée présente dans le cimetière. Comme si on assistait à une opération sécuritaire et pas à l'enterrement d'un jeune de 22 ans. Assisteront, comme on est arrivé en avance pour les obsèques, on me place en garde à vue provisoire. Une humiliation de plus dans un moment où le respect aurait dû être la seule règle.
Il est arrivé avec des menottes, entouré de quatre agents, et plus loin, autour de la morgue, on avait des CRS avec des mitraillettes. On n'a pas trop compris. Les copains de Robin ont payé l'enterrement, payé la concession. C'est eux qui sont allés chercher le corps. Donc on avait 15 gamins de 20 à 25 ans. Ils avaient décidé de rendre hommage à Robin en étant habillés tous en noir de la même manière. Je ne sais pas ce que se sont imaginés les gendarmes, que c'était un gang, tu vois. C'était pour honorer la mémoire de Robin, puisqu'ils allaient porter le cercueil jusqu'à l'endroit où il repose maintenant.
Une semaine après, donc, le chef surveillant du bâtiment me dit « Voilà où ça mène le trafic de stupéfiants. Je pense que vous allez récidiver. » J'ai eu le juge au téléphone. Pour moi, c'était une humiliation totale. J'étais déjà jugé à l'avance, comme si la mort de Robin n'était qu'une anecdote. Le soir même, je suis renvoyé à Luynes. J'y resterai 5 mois de plus, sans aucun suivi psychologique. La seule prévention suicide mise en place, allumer la lumière toutes les 2 heures la nuit pour vérifier si je ne m'étais pas pendu. Aucun accompagnement réel, aucune aide psychologique, juste un contrôle mécanique.
Le criminel a été incarcéré à Luynes. J'ai téléphoné à la SPIP de Luynes en lui disant « Non, vous ne pouvez pas le mettre à l'endroit où il y a mon fils ». Elle m'a dit « Je vous promets qu'il ne le croisera jamais ».
Moi, je savais que celui qui avait tué mon frère était là, dans la même prison. Une aberration totale de l'administration qui ajoute un traumatisme insupportable. Même à l'isolement, ils partageaient les mêmes murs, la même cuisine, la même gamelle. Avant mon renouvellement, des 4 mois de mandat de dépôt, j'ai une fouille intégrale et un surveillant me demande pourquoi je suis en prison. Et je lui réponds que c'est pour une histoire de codéine. Et là, il se tourne vers son collègue à côté de lui, quand ils me font la fouille. Et il dit à son collègue, tu sais ce qui est arrivé au dernier qui a fait ça? Il a été égorgé au Gomez. Et là, il parlait de Robin. Quand j'entends ça, je reste choqué. Je leur dis clairement qu'il parle de mon frère, Robin, qu'on a été incarcérés ensemble, dans la même affaire. À ce moment, leur ton change, comme s'ils réalisaient un peu la gravité de leurs paroles. Ensuite, ils m'ont posé plein de questions sur notre mise en détention. comme s'il même ne comprenait pas pourquoi on avait été envoyé en prison pour ça. Même ce surveillant-là a eu du mal à croire que Robin et moi nous soyons derrière les barreaux pour une histoire de codéine. Mais un autre a ajouté aussitôt, il y a trop de fausses demandes de cellules, comme si la mort de Romain servait encore de leçon cynique au lieu d'un appel à protéger les autres. À cette même audience, le juge a juste dit que juste un de nous deux était mort. Avec un haussement d'épaule, pas un mot de compassion, aucune condoléance, juste du mépris.
Eh bien, l'administration n'a pas souhaité répondre à nos questions car une enquête est en cours, dit-elle. Elle nous confirme simplement le lancement d'une enquête interne en parallèle de l'instruction judiciaire ouverte à Marseille. Elle ajoute que les personnels du centre pénitentiaire des Baumettes, très marqués par cette affaire, ont tous reçu une proposition de soutien psychologique.
Ils ont ouvert une cellule psychologique pour les surveillants aux Baumettes. Il y en a qui sont encore en maladie, qui ont changé de métier, alors que nous, la famille, on n'a rien eu, quoi. On a eu des détenus qui ont écrit des lettres d'eux-mêmes au juge d'instruction pour expliquer que Robin n'était pas violent, qu'il leur avait déjà parlé de ce problème avec ce co-détenu.
Pendant la garde à vue, un gendarme qu'on connaissait depuis le collège nous dit « Au pire, si vous rentrez, vous sortirez plus fort. Vous êtes comme des frères, intelligents. À la sortie, vous ferez un business légal. » Sur le moment, ça paraissait rassurant, mais avec le recul, je trouve que c'est grave. C'est faux, la prison n'est pas une parenthèse qui rend forcément plus fort. Elle peut briser des vies, et parfois elle tue. Parce que la prison, c'est un danger de mort. Maintenant, je le sais, et beaucoup de gens qui connaissent le milieu m'ont expliqué. Si tu rentres, tu n'es pas sûr de ressortir. Il faut arrêter avec ces phrases toutes faites du type « la prison c'est dur, la sortie c'est sûr ». Dans mon cas, certains pourraient dire qu'elle m'a rendu plus fort, mais pourquoi ? Parce que j'ai survécu au pire, perdre mon frère de cœur derrière les barreaux, sans pouvoir être là pour lui, parce que j'ai dû encaisser l'humiliation, la violence des mots, l'absence totale de soutien psychologique, parce que je n'ai pas eu le choix, tenir ou sombrer. Mais cette force, ce n'est pas une victoire, c'est une cicatrice. On sort avec des blessures invisibles, avec une rage et une douleur qu'on porte à vie. Ce n'est pas la prison qui m'a construit, c'est ce qu'elle m'a volé qui m'oblige à me relever. Alors oui, certains ressortent plus fort, mais c'est au prix de traumatismes insupportables et trop souvent d'autres n'en ressortent jamais. Et il y a un autre détail aussi, ce même gendarme avait écrit un message rassurant à nos mères le jour de notre incarcération, mais après la mort de Robin, rien, aucune parole, aucun geste, aucune condoléance, comme si la compassion s'arrêtait au moment où Robin était détenu mort. Ça c'est grave, parce que le silence dans ces moments-là, c'est une deuxième condamnation.
À la prison de Luynes, où j'allais visiter mon fils au parloir, au-dessus de la porte d'entrée, il y a les deux portraits agrandis des surveillants assassinés lors d'un transfert de Mohamed Amra, avec des fleurs. J'avais envie de mettre la photo de Robin. De toute façon, il y a un mort tous les deux jours dans les prisons françaises. La charte première du surveillant en prison, c'est veiller à la sécurité des personnes qui vivent dans l'établissement pénitentiaire. Donc c'est incompréhensible que quelqu'un pendant 5 jours dise, exprime, verbalise par tous les moyens possibles qu'il est en danger de mort et qu'on lui dise on verra demain.
On est des humains avant tout, et oui, on le vit très mal nous aussi, puisque bah, les surveillants eux-mêmes qui ont signalé plusieurs fois à leur hiérarchie ce qui se passait, mais après il faut savoir qu'avec la surpopulation pénale, c'est très 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 compliqué d'effectuer nos missions. Tous les établissements pénitentiaires aujourd'hui sont en surpopulation, on est à 188% de taux d'occupation.
Cette affaire se pose aussi la question de la surpopulation des détenus au Baumettes et la difficulté des surveillants à assurer leur travail dans de bonnes conditions. Le quartier des arrivants, où était Robin, comptait près de 120 détenus. En théorie, il ne devrait être que 62.
L'extrait diffusé tout au long de l'émission de l'intervention de Gérald Darmanin tente de justifier l'état catastrophique de nos prisons. Mais ces arguments, quand on les regarde de près, sont au mieux incomplets, au pire mensongers. Voici un droit de réponse de personnes qui se penchent sur les conditions carcérales. Les clarifications sont sur le mythe des 4000 bracelets électroniques, la faute rejetée sur les magistrats, les travaux d'intérêt général qui tardent à être exécutés, la détention provisoire abusive utilisée, les prisons promises en tôle puis en béton, la psychiatrie sacrifiée, et les activités supprimées et les budgets coupés. Le ministre affirme qu'il n'y aurait que 4000 bracelets en circulation. En réalité, ce chiffre correspond uniquement aux bracelets anti-rapprochement, utilisés notamment dans les affaires de violence conjugale. Mais si l'on regarde l'ensemble des placements sous surveillance électronique, ils concernent aujourd'hui près de 14 000 personnes en France. Donc, réduire ce chiffre à 4000 est une manipulation destinée à faire croire que les alternatives à la prison sont marginales. Elles existent, elles sont utilisées, mais elles manquent de moyens parce que le ministère ne les développe pas. Et rappelons-le, c'est bien le ministère qui fournit les bracelets électroniques à la justice. S'il n'y en a pas assez, les magistrats ne peuvent pas les ordonner. La responsabilité n'est pas du côté des juges, mais bien du ministre. Monsieur Darmanin explique que si les prisons débordent, c'est parce que les juges incarcèrent trop et pas assez aux bracelets ou aux travaux d'intérêt général. C'est faux. Les magistrats appliquent les lois votées par le Parlement et les circulaires de politique pénale émises par le garde des Sceaux lui-même. C'est donc le ministère qui fixe le cadre. Si les juges envoient davantage en détention, c'est parce que la ligne politique est au tout carcéral. Dire le contraire, c'est se défausser de sa propre responsabilité. Le ministère souligne que les tiges sont exécutées plusieurs fois après la condamnation. C'est vrai, mais la cause est bien connue. Trop peu de postes disponibles dans les associations et les collectivités. Trop peu de conseillers d'insertion dans les SPIP. Une lourdeur administrative qui rallonge les délais. Ces problèmes relèvent directement du ministère de la Justice. Ce sont ces choix budgétaires et organisationnels qui paralysent l'efficacité de cette sanction, pourtant utile. Le ministre parle beaucoup de détenus en attente de condamnation. Mais le terme exact est détenu en attente de jugement. Ce sont des personnes en détention provisoire, donc présumées innocentes. Parler d'attente de condamnation est un glissement de langage extrêmement grave. Cela revient à considérer coupables des personnes qui juridiquement ne le sont pas. La France est d'ailleurs régulièrement critiquée par la CEDH pour l'abus de la détention provisoire. Plus d'un tiers des détenus en France n'ont pas été encore jugés. Gérald Darmanin a multiplié les annonces sur de nouvelles places de prison. Un jour, il parle de prison modulaire, en tôle. Le lendemain, il promet du béton. Dans l'extrait du fusil, il dit exactement « Non, pas en prison modulaire, en tôle, mais je peux le dire ici ou là, mais en béton. » Cette petite phrase dit tout. Le ministre improvise, change de vocabulaire, se contredit. Construire une prison prend au minimum 6 à 8 ans. Ces annonces ne sont pas des solutions, ce sont des effets de communication. Rien de solide n'est prévu à court terme pour résoudre la crise. Le ministre reconnaît que beaucoup de personnes souffrant de troubles psychiques se retrouvent en prison faute de place à l'hôpital. Mais il présente cela comme une fatalité. Or, c'est l'État qui a organisé ce désastre. Depuis 40 ans, des dizaines de milliers de lits ont été fermés en psychiatrie. Résultat, pas de soins, des passages à l'acte qui auraient pu être évités et des malades enfermés derrière les barreaux. Et rappelons-le, la prison n'est pas seulement un lieu où l'on enferme les malades mentaux, c'est aussi un lieu qui fabrique de la maladie mentale. Isolement, violence, promiscuité, humiliation, on en sort plus atteint qu'on y est rentré. Enfin, au lieu de développer ce qui permet aux personnes détenues de rester humaines, ateliers, sport, culture, groupes de parole, le ministre réduit ses activités. Il ne s'arrête pas là, il coupe aussi les budgets des SPIP et des personnes chargées de l'accompagnement social et de la réinsertion. C'est donc lui qui fabrique des prisons où les humains sont dégradés et où on les rend à la société non pas comme des citoyens, mais comme des animaux blessés et brisés. Donc, la vérité est simple. Si nos prisons débordent et si elles rendent malades, ce n'est pas la faute des juges ni des condamnés. C'est la faute de l'État et en particulier du ministère de la Justice qui a fait le choix de supprimer des lits en psychiatrie plutôt que de soigner, de construire des prisons au lieu de développer les alternatives, de couper les budgets des magistrats et des personnels pénitentiaires, de durcir les politiques pénales au lieu d'appliquer les présomptions d'innocence. Les magistrats appliquent la loi et travaillent avec les moyens qu'on leur donne. Et ces moyens viennent du ministère. Si les prisons françaises sont dans un état inhumain, c'est parce que le garde des Sceaux supprime les budgets, refuse d'investir dans les alternatives et oriente la politique pénale vers toujours plus d'enfermement. C'est donc bien lui, l'État, le ministère de la Justice.
Darmanin, on a trois députés qui lui ont fait des lettres écrites à l'Assemblée, dont une en janvier par une députée LR qui s'est emparée elle-même de l'affaire de Robin, donc Valérie Boyer. Moi, j'ai contacté un député qui s'appelle Henrik Dabi, qui est député sur Marseille, qui a rédigé une question écrite, parce que les questions écrites, il est obligé d'y répondre et ça paraît au journal officiel de l'Assemblée. Et on a aussi André Torigna, une députée LFI, qui est en train de rédiger sa lettre écrite. Mais il n'a jamais pris contact avec nous. Il n'a jamais reçu la maman.
Nous avons donc entendu les promesses de réforme de Gérald Darmanin, pas toujours satisfaisantes et entendables, et les constatations sur l'assassinat de Robin de Stéphane Père, journaliste, et Catherine Forzi, déléguée syndicale de FO Justice à la prison des Baumettes. Voici un autre droit de réponse des personnes qui se penchent sur les conditions carcérales. Chaque fois qu'un drame survient en prison, la mécanique est la même. Un représentant syndical pénitentiaire prend la parole pour expliquer que les surveillants n'ont pas les moyens de travailler correctement, que c'est la faute du manque d'effectifs et que le personnel est à bout. Tout cela est vrai. Les agents subissent des conditions de travail très difficiles. Mais cette explication est aussi une façon commode de se dédouaner et d'occulter une autre réalité. La responsabilité structurelle de l'administration pénitentiaire dans ces morts. En 2023, 127 personnes sont mortes derrière les barreaux, dont près de 100 suicides. Cela représente un décès tous les 2 ou 3 jours dans les prisons françaises. On ne peut pas appeler ça une fatalité. Ce n'est pas le produit du hasard, c'est le signe d'un système qui dysfonctionne profondément. Les syndicats insistent à juste titre sur le manque de moyens humains et matériels, mais ils en font un paravent qui occulte le reste. Ils ne parlent presque jamais de l'organisation défaillante des affections. On met ensemble détenus vulnérables et détenus dangereux, malgré les alertes. Également de la déshumanisation de certains surveillants face aux personnes détenues, qui rend les alertes invisibles ou négligées. Également de l'inaction face aux signaux d'alerte. Combien de détenus suicidaires laissés seuls, combien d'appels à l'aide ignorés. Il parle également de la mauvaise gestion des vulnérabilités alors que les outils existent. Évaluation psychiatrique, cellules adaptées, suivi. Réduire tout à « nous n'avons pas assez de moyens » est trop facile. Oui, le manque d'effectifs est réel, mais il ne suffit pas à expliquer un mort tous les 2 jours. On a entendu pendant 1 an les syndicats répéter, à juste titre, leur émotion après la mort de 2 surveillants tués lors du transfert de Mohamed Amra en 2024. Mais on n'entend jamais ces mêmes voix sur la mort quotidienne de personnes détenues. Les suicides non empêchés, décès faute de soins ou de transfert hospitalier, drames liés à l'absence rapide de surveillants lors d'une agression. Chaque mort de détenu reste un chiffre, sans nom, sans visage, sans émotion publique, comme si certaines vies comptaient plus que d'autres. La réalité, c'est que ces morts traduisent une faillite globale de l'administration pénitentiaire, avec un sous-effectif chronique, mais surtout une mauvaise répartition des ressources, un manque de formation pour repérer et prendre en charge les détenus vulnérables, une culture institutionnelle du silence qui préfère minimiser plutôt que de reconnaître les erreurs, une absence de responsabilité. Jamais un directeur d'établissement ni un haut responsable n'est publiquement mis en cause après un décès. La Cour européenne des droits de l'homme a déjà condamné la France à plusieurs reprises pour des conditions de détention inhumaines et dégradantes. L'OIP, l'Observatoire international des prisons, rappelle régulièrement que ces morts ne sont pas des fatalités, mais bien le produit de choix politiques et administratifs. Les surveillants souffrent, oui, mais les détenus meurent. Et quand on a un mort tous les 2 jours dans les prisons françaises, il ne s'agit plus de malchance ou de malheureux accidents. C'est le signe d'un système qui fabrique des drames. Les syndicats, en se focalisant uniquement sur leurs propres souffrances, oublient de dire que l'administration dont ils font partie a aussi une responsabilité directe. Directe dans l'organisation défaillante, dans l'inaction face aux alertes, dans la déshumanisation des personnes détenues, dans le silence entourant ces morts. Donc, les syndicats pénitentiaires veulent être entendus, et ils doivent l'être, mais il est temps aussi que la société entende la vérité complète. Un mort tous les 2 jours derrière les barreaux, ce n'est pas une fatalité, c'est une défaillance structurelle de l'administration pénitentiaire qui engage directement la responsabilité de l'État. Mais pour que l'on n'oublie pas ce qu'a pu traverser Robin Cotta et continuer à dénoncer et mettre en lumière ce que sont les prisons françaises, Carole, la maman de Samuel, a jugé nécessaire de fonder une association et de mettre en place une page Facebook.
Elle s'appelle donc Justice pour Robin Cotta, vérité, mémoire et réforme. Pas seulement pour Robin, mais pour tous les jeunes qui peuvent se retrouver dans des cas pareils. On commence à avoir pas mal de personnes qui nous rejoignent, des membres qui n'ont pas spécialement connu Robin. L'association met en marche le plus de choses possible. On veut bouger les consciences, on veut que le nom de Robin devienne un nom qui résonne au national ou à l'international. On va faire appel à des artistes militants s'ils peuvent nous aider. On a des députés qui nous suivent. On veut faire appliquer les lois existantes. Par exemple, il y a une loi pénitentiaire qui dit qu'un détenu qui se sent en danger a le droit d'être isolé. Droit qu'on a refusé à Robin. Nous, ce qu'on veut, c'est réfléchir à des lois qui n'existent pas encore, mais aussi faire appliquer les lois qui existent. En France, l'État préfère payer quand il est condamné pour détention inhumaine d'incarcération plutôt que régler les problèmes existants. Ce n'est pas en faisant des grosses prisons, en créant des prisons et en incarcérant plus qu'on va régler ces problèmes. Il faut absolument, comme le montrent certains pays, faire sortir les petites peines. Sous bracelet électronique et la tige, faire du travail d'intérêt général et suivi psychologique, parce qu'en fait, tu rentres en prison, tu en ressors pire, en mal-être. Tu ressors avec des pathologies que tu n'avais pas avant, avec des angoisses. Tu n'es pas apte à la réinsertion professionnelle après avoir fait serait-ce que 4 mois de prison. Votre association veut œuvrer en amont sur ces sujets-là de prévention et aussi sur les sujets de réinsertion. Tout ce qui touche à la prison et l'après-prison et aussi, bien entendu, l'aspect psychologique, l'aspect santé mentale, où il faut absolument remettre des lits de psychiatrie. Je suis en contact sur des forums avec des associations de soutien de familles de détenus et je suis surtout en contact avec l'Observatoire international des prisons, section Marseille, qui est une antenne et qui est tenue seulement par des bénévoles. J'ai contacté la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté et le défenseur des droits, l'OIP, et la contrôleuse des lieux de privation de liberté ont le droit de faire des visites de prison sans prévenir et ensuite construire des rapports pour faire condamner la France selon les conditions qu'elle rencontre. Donc, ce n'est pas des personnes qui sont les bienvenues auprès du ministère du Garde des Sceaux et du ministère de l'Intérieur. On leur supprime des subventions, on essaye de les enterrer. Ils fonctionnent principalement avec des bénévoles. J'ai d'ailleurs publié un article sur le mur de justice pour Robin Cotta sur l'état d'insalubrité et de crasse des unités sanitaires en prison. Ce n'est pas des conditions admissibles.
Le 22 septembre 2025, un article dans le Figaro qui s'intitule « La violence ici est permanente » nous plonge au cœur de la prison surpeuplée des Baumettes à Marseille avec la visite inopinée du député de Marseille, Henrik Dévy, pour faire la lumière sur les faits ayant entraîné la mort de Robin. Tout est redit. Tout d'abord, fait totalement anormal pour une personne en détention provisoire de partager sa cellule avec une personne condamnée. Et, selon la loi, dans le quartier des arrivants, appelé aussi le quartier d'accueil et d'évaluation, les détenus ne devraient y rester qu'une dizaine de jours. Et le taux d'occupation est de 208% à l'heure d'aujourd'hui, alors pourquoi on enferme pour des petits délits? De plus, au Baumettes, il y a déjà eu une prise d'otage, le viol d'une infirmière en consultation et le meurtre de Robin. Alors selon ce député, cela semble être la conséquence d'un délabrement des conditions de vie en détention, avec un manque de personnel et une surpopulation carcérale, oui. Mais, selon une soignante, le meurtre était imprévisible. Alors là, non. Il était prévisible, vu toute la situation et le non-solutionnement de problèmes clairement identifiés. Et évitable, si les appels de Robin et les dires des autres détenus et de son co-détenu avaient été pris en compte.
Pourquoi je témoigne? Parce que les faits sont clairs, parce que les mots sont graves, parce que les gestes sont humiliants, parce que Robin avait alerté, écrit, crié à l'aide. On ne l'a pas entendu. La prison n'a pas protégé Robin, ignoré ses demandes, le laissé à plein en vain, intervenir après de longues minutes décisives. L'administration a failli à son obligation de protéger la vie. Robin n'est pas mort parce qu'il est détenu, il est mort parce que ceux qui avaient le devoir de le protéger ont fermé les yeux. Je parle aujourd'hui pour rétablir la vérité. Je parle pour dire que Robin avait de la valeur, que sa vie comptait. Robin, tu disais, on est de bonnes personnes, il ne pourra rien nous arriver. Ta phrase résonne encore, je veux vivre de façon honorée. Et je veux plus jamais qu'une famille, un ami, un détenu ne vive ce que nous avons vécu. Aujourd'hui, je parle pour que ton nom ne soit pas oublié. Et pour que plus jamais un détenu qui crie à l'aide ne soit laissé à mourir dans le silence. Justice pour Robin.
Je
Cela fait un an que Robin Cotta a été tué à la prison des Baumettes, à Marseille, par son codétenu. Pour honorer sa mémoire, une marche blanche aura lieu le 11 octobre 2025 à 14h sur la place de la mairie à Sisteron. On marchera 2-3 km jusqu'au cimetière. Cette journée est organisée par l'association à but non lucratif Justice pour Robin Cotta, Vérité, Mémoire, Réforme. Vous pouvez adhérer à l'association. Il existe également une page Facebook Justice pour Robin Cotta. Carole Hernandez Chaptal, la maman de Samuel, arrêtée en même temps que Robin, est représentante de l'association. Pour tout renseignement, voilà son adresse mail samjoanca, samjoanca@gmail.com ou au 06 70 25 19 01. Cette marche a lieu aussi pour rappeler que Robin Cotta n'est pas mort par hasard. Il a été tué par un système. Un système qui enferme trop, trop vite, sans discernement. Un système qui promet des murs, mais jamais de protection. Un système qui se vante de fermeté et qui laisse mourir des jeunes dans l'indifférence. Nous accusons l'État français d'avoir ignoré les alertes, d'avoir sacrifié Robin, de transformer ses prisons en cimetières invisibles. Nous refusons cette politique de la honte. Nous refusons que la surpopulation serve d'alibi. Nous refusons que les vies derrière les murs soient comptées pour rien. Nous exigeons que les détenus vulnérables soient protégés, que la cellule ne soit plus un espace de mise à mort, que la vérité soit faite sur chaque décès, que la mémoire de Robin ouvre une brèche dans vos murs.
Perdu le sourire, arraché de la veille. Regarde mon avenir dans le fond de la taille. À la recherche de lumière ou d'une étincelle parce que tout est noir.
Perdu le sourire, arraché de la veille. Regarde mon avenir dans le fond de la taille. À la recherche de lumière ou d'une étincelle parce que tout est noir dans le fond de ma tête. Peux pas dormir, la nuit porte conseil. Une route à suivre, j'ai toujours fait le contraire. Y'a pas de réponse et tellement de questions. Combien de temps ça dure? La dépression, c'est MURSA. La récession, les pères qui se les mandats. La répression au milieu des culs de joints et des tessons. Parce que demain c'est loin quand t'es devant les caissons. Complètement arraché à ressasser le passé. Ça peut pas bien finir, ça va mal se passer. Après l'orage, il ne restera que des gouttes. Et moi à hurler que ce monde me dégoûte. Et moi à hurler que ce monde me dégoûte. Je suis encore bourré, un soir de déroute. Chaque voiture brûlée qui m'éloigne de mes doutes. Ils veulent pas nous entendre et nous mettre sur écoute. Pas de genou à terre et ce quoi qu'il en coûte. Allez tous en enfer, j'en ai plus rien à foutre. La drogue, le suicide, y'a pas de sujet tabou. Ça va beaucoup trop loin, ils nous ont poussé à bout. On ira droit au mur, on ira jusqu'au bout. On laissera des fissures, on rendra coup pour coup. On ira hurler au milieu des loups. On ira danser au milieu des fous. J'enlèverai ma capuche, sous une pluie de coups. Y'aura pas de chute, je vais mourir debout. J'enlèverai ma capuche dans un bruit de sourd. Y'aura pas de chute, on va mourir debout.
Je suis en panne, du gasoil plein la face, j'aime pas trop les impasses. Et j'ai la poisse qui colle, et le foie qui cogne, y'a les rats qui lorgnent. Attendre que le bateau coule, j'ai mis mon corps à vendre et je passe ma dalle à l'alcool. Je regrette le temps d'avant quand j'en avais rien à foutre. J'étais membre, tracé ma route solo. Maintenant les rangs sont serrés, une bande de gars et coma. mal gaulé, à se câliner dans la crasse. Ma gueule avinée, votre enfant passage, l'âme nomade. J'ai lavé des chiottes, passé de la pommade. Genre mal lève tôt, quel que soit le contexte. Normal, cette merde me fait perdre la tête. Dissomniaque à mes heures, lunatique, je m'étonne. Des histoires plein la tête, et toujours je riposte. Dissomniaque à mes heures, lunatique, je m'étonne. Des histoires plein la tête, et toujours je riposte. Pitbull charmante, hypercute, je avance. Injonction au bien-être, j'suis dedans, j'me défonce, j'suis le rythme. J'kiffe les fossés plein de ronces, c'est quand ça dépasse sur la route. J'kiffe les fossés plein de ronces, c'est quand ça dépasse sur la route.
Je voulais faire partie des gens cool, mais sous la cagoule c'est pas Will Smith. La défense mon ticket dans la cour, je suis dans le coup sous perfus du 8-6. J'ai pas l'attitude, moi j'ai pas leur classe. La confiance en soi tout un concept. Le rasoir me corrige devant la glace. La dame parle, j'esquive, je lui tiens tête. Tous ces cons ne pensent qu'à s'habiller, moi je ne suis rien sans ma compagnie. À la fin des nuits j'ai brisé sablier. Tout n'est pas à la carte, c'est pas le campanile. J'ai serré la main, j'étais candide. J'ai mangé des teutards, j'étais servile. Dis-moi qui prétend connaître leurs soucis. Des amis dérivent, les messieurs suppriment tragique trop.
Dans la gueule, je veux d'avancer. Je vais pour mes gueules, je vais marcher le rang. Je vais dans la gueule, je veux d'avancer.
Le cœur serré sans la crise d'angoisse. J'ai pas dit je t'aime, j'trop bu la tâche. J'me perds, j'm'oublie, j'ai rien compris. J'me suis noyé dans les compromis. J'ai tendance à laisser mener la danse. Du bal des égaux, garde la distance. Car part de l'échec, la solitude, ma délivrance.
Vous êtes toujours à l'écoute de L'Envolée, comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. On vous rappelle rapidement les informations pour nous contacter. Pour nous écrire, c'est à l'envolée-fpp 1 rue de la Solidarité 75019 Paris. Pour nous appeler, c'est au 07 53 10 31 95. Encore une fois, aujourd'hui, c'est une émission enregistrée qu'on rediffuse et donc il n'y aura pas, ce n'est pas possible de nous appeler en direct. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site l'envolée.net, nous écrire par mail à contact@l'envolée.net et nous retrouver aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Donc, on vient d'écouter l'émission de Radio Zinzine avec les récits de Samuel et de Carole qui racontent la mort de Robin, enfin, l'enfermement de Samuel et Robin, la mort de Robin et les suites de son décès. Voilà, encore une fois, on voit bien à quel point c'est l'administration pénitentiaire qui est pleinement responsable de ce décès en ne réagissant pas aux alertes, mais aussi en mettant, en obligeant des gens à partager une cellule alors même que ce n'est pas possible, apparemment il y en a, enfin, et que ce n'est pas compatible avec leur sécurité. Voilà, enfin, rappelons encore une fois que c'est l'administration pénitentiaire qui est pleinement responsable de la sécurité physique des personnes qu'elle enferme. Et donc, comme on le disait au début de l'émission, on va maintenant passer des enregistrements, des prises de parole qui ont eu lieu lors de la marche blanche que donc l'association Justice pour Robin Cotta a organisé le 11 septembre dernier, donc 2025, à Sisteron, donc là d'où il était originaire. Il y a plus de 150 personnes qui se sont rassemblées et qui ont marché jusqu'au cimetière et jusqu'à la tombe de Robin ce jour-là, ce qui est quand même pas rien, parce que malheureusement, souvent, les personnes qui... les morts en prison sont plutôt passent souvent sous silence ou ne provoquent que peu de réactions, donc c'est quand même important de noter qu'il y a eu un soutien assez large de ses amis, mais aussi de collectifs, d'organisations autour qui sont venus soutenir Carole, Samuel et leurs proches. Et donc, à cette occasion, il y a eu plusieurs prises de parole. On va de nouveau entendre Carole prendre la parole. On va aussi entendre un membre de la LDH. Et donc, on va écouter ces prises de parole et puis après, on revient.
fatiguée.
Je te remets comment de ça.
Entendez-vous la voix des prisons, des mutinés de Toul, de Nancy, de Clairvaux, Los, Amiens ou de Nîmes? Cette voix qui crie insurrection, nos frères, nos enfants, nos maris, nos frangines, nos camarades, nos amis. À qui ne reste que la violence pour abattre le mur du silence. Mais dehors, vous avez la misère à le même bout. Révoltés des prisons vacilles, tous ceux qui luttent sont avec vous. Tous ceux qui luttent sont avec vous. Paysans, ouvriers ou précaires,
on va lancer la manif avec la banderole Justice pour Robin, c'est les copains qui vont prendre
et les brimades, les fouilles à corps, l'arbitraire.
Après se faire virer d'ici, donc on va rassembler toutes les, tout le matériel ici.
Chacun, car te prendre ta liberté leur suffit pas. La prison, c'est une zone de non-droit.
Il est mort parce que l'État a failli à son devoir de protéger une personne détenue provisoirement, demeurant un citoyen présumé innocent tant que la justice ne s'est pas prononcée. C'est pour dénoncer cela que nous avons fondé l'association Justice pour Robin. Construire plus de murs n'a jamais protégé personne. Ce qu'il faut, c'est plus d'écoute, plus de discernement et un peu de courage politique. Parce qu'on juge du degré de civilisation d'une société à la manière dont elle traite ses prisonniers. Une petite aparté, une ironie macabre. Le 9 octobre, le jour anniversaire du décès de Robin, l'État célèbre l'homme qui avait aboli les quartiers de haute sécurité, Robert Badinter, qui avait défendu la dignité des prisonniers, leur droit à la santé, à la protection, à la réinsertion. Robin Badinter, le 9 octobre, jour anniversaire du décès de Robin, est entré au Panthéon. Il y a 40 ans, et 40 ans plus tard, on régresse. On régresse de la pire des façons, en créant des régimes inhumains, en détruisant les droits fondamentaux, en niant l'humanité des prisonniers. On régresse jusqu'à faire de la violence et de l'humiliation un mode de gouvernement. Alors aujourd'hui, je pose cette question aux personnes qui prennent les décisions dans notre pays. Cette question n'est pas combien de prisons vous allez construire. Cette question est: combien de morts êtes-vous prêts à tolérer et à nous cacher avant de revoir votre politique générale? Justice en prison, la même exigence pour plus de justice sociale et fiscale et environnementale. Merci d'avoir pris la peine de m'écouter.
L'homme ou Ligue des droits humains 04. On est deux ici avec Fabrice Lébelli qui est derrière moi. On se retrouve dans ce qui a été dit. Je ne vais pas répéter, sinon on peut dire, disons, les points schématiquement, ils sont clairs. C'est pour commencer la manière dont on traite des addictions dans ce pays, de la part d'un État et d'une société qui a ses propres lacunes à l'origine de souffrances qui sont souvent les sources de ces addictions. Il y a des pays où il y a eu des grands débats publics qui ont débuté, débouché plutôt sur des changements structurels comme le Portugal, dont on ne daigne pas s'inspirer. Il n'y a toujours pas de débat digne de ce nom sur la relation générale aux produits addictifs, sur ce qui est licite, ce qui n'est pas licite, et sur l'emprisonnement, sur le systématisme des politiques carcérales, qui sont des politiques, mais qui sont aussi des surenchères médiatiques, qui sont, à l'heure actuelle, il y a une forme de quête du tout carcéral pour essayer de répondre à tous les problèmes et toutes les contradictions qui se posent dans cette société, qui est vraiment dangereux. C'est une politique vraiment dangereuse. Le deuxième point, évidemment, et c'est celui qui, en tout cas au niveau judiciaire, doit donner prise plus immédiatement, c'est le fait d'avoir mis un prévenu avec un condamné dangereux qui avait même annoncé, c'est un crime annoncé. Il a dit « je vais faire une dinguerie si on met quelqu'un dans ma cellule ». Donc il y a quelque chose qui est terrible à ce niveau-là. Alors, et après, évidemment, c'est la non-assistance ou omission de secours, je ne sais plus comment on dit juridiquement, mais c'est la non-assistance à personne en danger, et ce n'est pas faute d'avoir alerté l'administration, faute d'avoir alerté les responsables dans cette prison. Donc il y aura des suites judiciaires. C'est évident que le meurtrier, lui, va être jugé aux assises, c'est assez clair. Après, c'est au niveau des responsabilités qu'il va falloir enfoncer le clou, parce que les responsabilités vont effectivement jusqu'à l'État, qui, par sa politique, a facilité ou procuré ou provoqué la mort de Robin Cotta et de bien d'autres personnes. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on n'arrive toujours pas à avoir les statistiques de gens qui ont été assassinés dans les cellules. On sait qu'il y en a qui se suicident tous les trois jours. En tout cas, même au regard du droit, au regard de la simple citoyenneté humanité, c'est inacceptable, c'est révoltant. Et puis quand on a l'image de la manière dont Robin a été tué à l'esprit, ça fait très très mal. Au passage, je dis qu'évidemment, on s'associe à la peine des proches. Évidemment, la question de la surpopulation, elle est dialectique, comme on dit, parce que d'un côté, il y a un problème de surpopulation qui est phénoménal. Là, j'ai regardé les extraits du rapport de ce qu'on appelle la contrôleur générale des lieux de privation de liberté. Déjà en 2020, elle alertait sur certaines prisons, et notamment au Beaumetz, comme quoi de nombreuses atteintes aux droits fondamentaux ont été constatées. Et donc là, on en était déjà à 178% de surpopulation dans les maisons d'arrêt. Et maintenant, on en est à 200%. Donc il n'y a rien qui a été... les remarques institutionnelles n'ont pas été écoutées. Mais cette question de la surpopulation, c'est aussi une fuite en avant. C'est-à-dire plus on construit des prisons, plus il y a de la surpopulation, et plus on croit régler des problèmes liés au dysfonctionnement de la société et de l'État par l'emprisonnement. Et en fait, maintenant, en plus, ça devient une question commerciale, parce qu'on sous-traite à des entreprises qui eux-mêmes, à leur tour, deviennent des lobbies, comme dans la vidéosurveillance et plein d'autres systèmes, qui font pression sur l'État, sur les politiques qui se décident. Et donc ça, c'est aussi quelque chose à visibiliser. Et tout ça, donc au niveau des responsabilités, on arrive au sommet de l'État, enfin à l'État, et au fait qu'il mène des politiques qui sont assassines, et qu'effectivement, on parle de ça à un moment, et le drame a eu lieu dans les mêmes jours d'octobre que le moment où on honore l'homme qui symbolise la fin de la peine de mort en France. Donc il y a une contradiction fantastique. Donc ça, c'est toutes les choses qu'on veut suivre.
Révolter les prisons vacilles.
Mais le plus facile, là, c'est sur l'ordinateur. Un podcast et tu le reçois.
Tous ceux qui luttent sont avec vous.
Laissez un sourire, pas au plaisir.
Allez, bon, ciao.
Je vais me marcher.
Dans toutes les prisons, on tabasse. Trois matons qui s'emmerdent, tu y passes. On a froid, on bouffe mal, on devient cinglé. Entassé dans quelques mètres carrés. Tu es le temps dans ce ghetto jour après jour. Comptez les heures, chaque nuit sans amour. Dans les couloirs de la mort lente, plus de repères. Faut s'accrocher pour pas se foutre en l'air. Mais dehors ou derrière la misère a le même goût. Révolté des prisons Bastille. Tous ceux qui luttent sont avec vous. Tous ceux qui luttent sont avec vous.
Vous êtes encore à l'écoute de l'Envolée, comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Donc, on arrive vers la fin de cette émission. Donc, on vient d'écouter les prises de parole à la Marche Blanche en hommage à Robin Cotta. Et bah, bien sûr, à cette antenne, on vous tiendra au courant des avancées dans la bagarre dans laquelle se sont lancés ses proches pour réussir à confronter l'administration pénitentiaire à ses responsabilités dans ce drame. Et on voulait aussi, avant de finir cette émission, en profiter pour vous reparler de Mehdi Berroukesh, qui était mort, qui avait été aussi tué par son codétenu au quartier de semi-liberté de la prison de la Talaudière il y a de cela 2 ans et demi, et dont on avait parlé plusieurs fois à cette antenne, parce que ça avait suscité à la fois une mobilisation des proches, des prisonniers enfermés dans ce quartier de semi-liberté, aussi de soutien extérieur pendant quelques semaines, qui avait encore une fois essayé de souligner la responsabilité de l'administration pénitentiaire, à la fois dans le fait de mettre en cellule 2 personnes, sachant très bien que c'est un danger pour leur sécurité, mais aussi pour tarder à intervenir une fois qu'une agression commence.
Aujourd'hui, les proches de Mehdi continuent leur lutte pour faire reconnaître les responsabilités de l'AP. Et elles participent au printemps dernier, au week-end contre les violences d'État, organisé à Saint-Étienne. Et là, on va essayer de rappeler un peu cette histoire qu'on avait déjà relayée à cette antenne, à partir des textes sortis à l'époque.
Donc dans ces textes, ça rappelait qu'en fait la presse locale, ils avaient mis 3 jours à parler du décès de Mehdi Berroukesh, et que le premier article qui sortait dans le Progrès, ça insistait beaucoup sur le fait que c'est allé très vite, que l'intervention des surveillants avait été très rapide, et qu'ils étaient intervenus grâce à des caméras, dont on ne sait pas trop où est-ce qu'elles peuvent être, ces caméras dans les cellules. Et du coup, on voyait bien que c'était, comme d'habitude, en fait, les éléments du procureur qui étaient diffusés, relayés par les médias pour donner la version officielle de ce qui s'était passé. Et en fait, encore une fois, c'est grâce aux autres prisonniers qu'on va savoir qu'ils sont enfermés dans les cellules autour, qui vont dire et raconter ce qui s'est vraiment passé, c'est-à-dire qu'ils ont appelé aux fenêtres, tambouriné pendant près d'une heure avant qu'il y ait une intervention des matons. Et voilà, donc en fait, là, on retrouve vraiment les mêmes comportements que dans les autres histoires, que ce soit celle de Robin Cotta et aussi d'autres. Voilà, et en fait il y a une telle répétition qu'on peut forcément se dire que c'est pas juste un dysfonctionnement à un endroit à un moment, quoi.
Et sur les réseaux sociaux, la famille et les compagnons d'enfermement ont pris la parole et évoqué la lenteur d'intervention, le manque d'explication et le manque d'écoute et de soutien. Il y a un rassemblement qui a eu lieu le 2 janvier en centre-ville. L'enterrement de Mehdi et un grand hommage ont eu lieu le 3. Et c'est là qu'un autre média local insiste sur l'appel au calme lancé par la maman. Dans ce contexte, des prisonniers du centre de semi-liberté, des proches et amis, certains des amis et des proches de Mehdi, traumatisés et directement touchés par ce drame, veulent continuer de parler et dénoncer l'attitude de l'administration pénitentiaire. Il y a un rassemblement qui a eu lieu devant le centre de semi-liberté en fin d'après-midi. Des personnes viennent soutenir des prisonniers, dialoguer avec eux, puis bloquent la porte pour retarder leur entrée.
Et voilà, il se passe la même chose le lendemain, donc le 4 janvier, il y a encore des personnes solidaires qui viennent se rassembler devant le centre de semi-liberté, qui discutent avec les prisonniers et qui bloquent un peu la porte pour retarder l'entrée des prisonniers, voilà. Et du coup, ça permet d'arracher quelques heures à la tôle et de discuter de ce que les gens y subissent de la part de la justice et de la prison. Et donc aussi, à l'époque, on rappelait que les centres de semi-liberté, c'est des prisons dans lesquelles on place les prisonniers en général pour finir leur peine, donc elles sont à côté des tôles. Et qu'en fait, il y a quelques années, ces gens-là, ils seraient juste sortis de prison, et qu'en fait, ça fait partie de ces soi-disant alternatives à l'enfermement qui en sont juste l'extension et l'externalisation. Et donc maintenant, en fait, on rallonge la peine des gens avec cette soi-disant alternative à l'enfermement. Et donc, en fait, ils sont autorisés à sortir juste certains horaires en journée pour travailler ou d'autres activités. Et après, le soir, tu dors en prison, quoi. Et quand même, pareil, le week-end et sans parloir. Et du coup, on mettra aussi en lien dans le descriptif de l'émission le lien vers les textes qui étaient sortis à l'époque et l'émission de radio. On passait des témoignages de prisonniers du quartier de semi-liberté de la Talaudière qui parlaient après la mort de Mehdi Berroukesh, du coup. On arrive donc à la fin de cette émission. J'en profite simplement pour vous rappeler que pour soutenir Carole et les proches de Robin dans leur lutte, vous pouvez vous connecter à la page Facebook, donc Justice pour Robin Cotta, ou à celle qui lui est associée, qui est celle de Carole Hernandez-Chaptal. Je mettrai en lien les deux pages Facebook sur la page en ligne de cette émission. Voilà, sinon, nous, on se retrouve la semaine prochaine de 19h à 20h30 sur Fréquence Paris Pluriel. D'ici là, on sera rediffusé sur tout un tas de radios locales qu'on en profite pour remercier et saluer. Et sinon, rediffusion, je crois, mercredi matin, 8h. Un grand big up et plein de force à toutes les personnes enfermées en France dans tous les types de prisons qui existent. Plein de force en particulier à celles et ceux qui sont dans les mitards et les quartiers d'isolement. Et voilà, force, courage et comme d'habitude, il n'y a pas d'arrangement.
Sognando ogni sera con la testa di evadere, mi è messo responsabile. E nelle prime pagine, soltanto perché loro vogliono sporcarmi l'immagine. Ma sai cosa immagino? Che qui non c'è un margine, continuo a non immagini, anche sotto indagine. E dormo in paranoia, e vivo in paranoia. E tengo una pistola, rapom pom pom, rapom pom pom. E dormo in paranoia, e vivo in paranoia. E tengo una pistola, rapom pom pom, rapom pom pom. Quiero que hermano, je suis maghrébin, Haribo Haribo e vado in giro a Milano. Je suis africain, capito capito, non capito italiano. Non parlo, non hablo la lingua di infami, piuttosto la taglio. Entro, esco, sì dal commissario, normal. Ho fatto dei progressi, mica un progresso, son sempre lo stesso, yeah, yeah. Ho fatto più processi che frate concerti, tu che cazzo pensi, yeah, yeah. Giro con 20 negri e con 10 ferri, meglio che non scherzi, yeah, yeah. Tornate a casa aperti e poi studio aperto, non porta rispetto, yeah, yeah. Baby giuro che ti porto come Champs-Élysées, insieme gireremo tutto il mondo. Lei mi vuole perché sono uscito dalla misère, mi chiama baby ma io non rispondo. Baby giuro che ti porto come Champs-Élysées, insieme gireremo tutto il mondo. Lei mi vuole perché sono uscito dalla misère. Fumo freddo rotto dalla prima calite, ci manca l'equi dell'argent. C'ho problemi, crimi, la mia mentalità. Je m'en bats les culs, excuse-moi. Fumo fra diretto dalla prima qualité. Je m'en bats les culs de l'argent. C'ho problemi, crimi, la mia mentalità. Je m'en bats les culs, excuse-moi. E dormo in paranoia.